Bonjour et bienvenue à tous à Radio Mermoz, la radio qui vous fait décoller. Mesdames et messieurs, chers auditeurs de la communauté Mermoz, bienvenue à ce premier numéro de notre émission L'invité du jour. Nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui M. Jean-Christophe Debert, directeur général de la mission laïque française.
Nous profitons de sa présence dans nos murs pour aborder avec lui quelques questions qui nous semblent importantes. Je suis Karen Canso, en classe de seconde B. Avec moi, mes condisciples, Loïc Fillon,
bonjour.
Savannah Doumbia,
bonjour.
Et Kelly Siklaoui, également en classe de seconde B. Et nos aînés, Darina,
bonjour.
Et Jessica Dakmak, respectivement en classe de terminale L et terminale S2. Notre entretien va s'articuler autour des points suivants. D'abord, la réforme du lycée. Ensuite, la MLF et le numérique. Et pour finir, les études post-bac des bacheliers de Mermoz. Darina va donc commencer l'entretien avec M. Debert sur la réforme du lycée.
D'abord, merci de m'accueillir dans cette web radio. J'ai toujours un très grand plaisir à voir se développer ce média scolaire tenu par des élèves avec leurs professeurs. Et pour nous, c'est un apprentissage dans la confiance de soi, dans la maîtrise de sa réflexion et de sa propre expression et dans la valorisation de votre établissement scolaire, enfin dans la construction d'une communauté qui apprenne au fond les règles de l'information de l'âge adulte que vous maîtrisez parfaitement. Alors, pour cette réforme du lycée qui est en train de se mettre en œuvre, naturellement, toute réforme d'abord provoque des inquiétudes, suscite des interrogations, il nous appartient d'y répondre. Il y aura, comme c'est d'usage dans pareil changement, quelques mois, en effet, où le dialogue entre vos professeurs et vous, et vos parents, puisqu'ils vous suivent naturellement, sera très nécessaire, alimenté par une information venue du ministère français de l'Éducation nationale, qui est, pour les usagers que nous sommes tous, toujours trop lente parce que nous aimons bien anticiper, et c'est bien normal, mais qui vient aussi à son temps, après que nous en avons eu le cadrage général que je vais vous rappeler. Nous voyons bien aujourd'hui que les matériaux qui vont vous permettre de vous préparer en 2021 au baccalauréat, mais avant cela, à une nouvelle forme de la classe de première et de la classe de terminale, tout cela viendra à son heure. Vous savez, ce sont vos professeurs qui vont être obligés de travailler davantage pour se préparer pendant les mois à venir à vous accueillir dans les meilleures conditions. Alors le sens de cette réforme, quel est-il ? D'abord, rappelons que le baccalauréat est, comme certains manuels d'histoire ou de réflexion historique le disent, une sorte de monument dans la culture française, vous le savez. Il existe depuis le tout début du XIXe siècle, depuis l'Empire, et il surplombe au fond toute l'organisation du système scolaire français. Sa conception est très particulière. Il ne sanctionne pas la fin d'un cursus scolaire. Il est le passeport pour entrer dans des études supérieures, post-bac, dont vous souhaitez que nous reparlions ensuite. Alors, il faut quand même saluer la solidité de ce monument qui a fonctionné et fait fonctionner l'école française depuis tant de temps, plus de 2 siècles, avec bien sûr des aménagements, avec des modifications, des évolutions qui correspondent aux attentes d'une société, mais qui correspondent aussi aux nécessités d'une organisation scolaire qui a de plus en plus d'importance. Souvenons-nous que lorsque le baccalauréat naît, au tout début du XIXe siècle, il concerne quelques poignées de jeunes gens, d'étudiants. Aujourd'hui, ce sont des centaines de milliers d'élèves qui le passent. Et non seulement en France, mais dans le monde. vous en êtes la vivante illustration. Cette réforme correspond au fond à un objectif principal qu'il faut avoir en tête et qui vous concerne, vous. C'est de faire en sorte que, dans le contexte actuel de la France, le baccalauréat français devienne, se mette à l'unisson de modalités, je dirais, d'organisation internationale. Il reste un diplôme français, mais il évolue dans le sens d'une compatibilité plus forte entre notre système scolaire et les autres systèmes scolaires. Vous, vous êtes des chanceux à l'étranger. Vous avez parfaitement compris, et vos parents l'ont compris, que lorsque vous êtes dans le système français, vous passez un baccalauréat français, vous pourrez aller en France, en Europe, dans un autre système scolaire de langue non française, par exemple anglaise, et ça ne vous pose pas de problème, parce que vous savez très bien que ça fonctionne comme ça. Mais il faut aller plus loin dans cette ouverture. Et donc l'organisation telle qu'elle est prévue vise au fond à rapprocher notre diplôme d'autres diplômes internationaux. J'en donne un exemple que vous allez découvrir et qui peut-être explique le terme de saut dans l'inconnu que vous citiez tout à l'heure. Ce sont les enseignements de spécialité que vos professeurs et votre direction vous ont expliqué. Qu'est-ce que ce sont des enseignements de spécialité ? C'est un volume d'heures qui est non pas arraché aux disciplines, mais qui invite les disciplines à travailler ensemble pour construire des connaissances qui correspondent davantage à un monde complexe. Est-ce que je me fais bien comprendre ? Vous n'avez pas d'un côté les mathématiques, le français, les sciences de la vie et de la terre, etc. Vous allez avoir des groupes de disciplines qui vont, devant vous, vous permettre de construire une approche du savoir plus en harmonie avec la complexité du monde. Il y a un philosophe que j'invite vos professeurs à vous faire connaître et qui illustre parfaitement cela, c'est Edgar Morin, que la mission laïque française connaît bien, puisqu'il avait été notre âme d'un des congrès il y a quelques années que nous avions tenu à Casablanca. C'est lui le papa, le père de la pensée du complexe, qui consiste à dire aujourd'hui, un jeune ne peut pas comprendre le monde, et par exemple des données aussi difficiles à saisir que la mondialisation des économies, la question du climat, avec tout ce que cela comporte de connaissances à la fois géographiques, physiques, mais aussi économiques et financières, fiscalité, etc., sans qu'on mette en place des modes d'apprentissage et de recherche qui vous conduisent à comprendre ce que c'est que le complexe. Voilà pourquoi vous allez avoir une dizaine d'enseignements de spécialité qui vont vous permettre d'entrer dans un mode d'analyse nouveau et aussi de construire, au fond, une autonomie intellectuelle et un mode de curiosité qui correspondent à ce qu'est le monde d'aujourd'hui. Ça, c'est le premier point. Alors, il ne faut pas avoir peur. Ce sont vos enseignants qui vont être davantage sollicités pour travailler davantage ensemble et pour faire en sorte que ces moments importants dans votre horaire hebdomadaire soient riches et ne soient pas une répétition de ce qui se passe ailleurs. Un autre aspect des choses qui me paraît tout à fait important, qui là ne relève pas obligatoirement de l'internationalisation des modes d'approche de la connaissance, mais qui correspond à une école, comme le dit le ministre français de l'Éducation, de la confiance, c'est le changement d'évaluation. Vous savez bien que vos prédécesseurs, depuis des décennies, à la fois sont bien préparés au baccalauréat, mais en ont peur. Ils approchent les épreuves finales, et c'est bien, bien normal, c'est la première fois qu'on a un grand examen à échelle nationale ou internationale. Ça va être tempéré par le fait que nous allons faire confiance à vos professeurs, à votre établissement, pour qu'une partie de la notation, de l'appréciation des candidats que vous êtes, soit dépendante de votre cursus scolaire. Ce qu'on appelle le contrôle continu, c'est la prise en charge de ce que vous allez avoir, vous avez fait en amont, et qui va être, au fond, capitalisé dans la préparation du baccalauréat. Pourquoi est-ce que je parle d'école de la confiance ? Parce que nous faisons, l'école fait confiance à vos enseignants pour dire ils sont bien à même dans l'établissement d'apprécier ce que vous êtes. Et puis ça renforce votre confiance à vous et la responsabilité que vous avez. Non pas d'attendre la dernière année, les derniers mois pour préparer le baccalauréat, mais pour avoir conscience que vous le préparez bien en amont des années avant. Voilà une deuxième évolution qui me paraît marquer cette réforme. Donc progressivement, nous allons avoir un baccalauréat, si vous voulez, à la fois plus en harmonie avec la préparation de jeunes gens comme vous qui doivent très tôt au lycée comprendre ce qu'est le savoir comme la production de ma propre curiosité, d'une recherche, etc., d'une capitalisation de ces savoirs par, au fond, des approches beaucoup plus modernes et renouvelées, puis d'un autre côté, une façon de préparer le baccalauréat tout au long, au fond, de votre cursus scolaire. C'est une école de la responsabilité. Voilà, je retiens ces deux sujets-là, mais il n'y a pas que cela dans cette réforme. Mais ce sont les traits principaux. Le dernier point, quand même, il ne faut pas l'oublier, c'est qu'on reprochait au système français de mettre les élèves trop tôt sur des rails, et des rails spécialisés. Vous le voyez bien, vous-même, vous êtes en filière L, enfin peut-être pas toutes les deux, mais au moins l'une de vous deux. D'autres vont aller en ES ou en S, vous êtes en seconde, donc c'est l'année prochaine. Ce que l'on veut faire, c'est justement essayer d'abolir ces barrières entre des filières, entre ces barrières. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Un monde complexe ne peut pas être travaillé uniquement par jeunes adultes que vous êtes, qui auront été mis trop tôt dans des cases, avec des spécialités trop rapidement établies. D'abord, il faut vous laisser la possibilité des choix, et ces choix, vous allez les faire vous-même, avec vos professeurs. C'est peut-être ça, d'ailleurs, le saut dans l'inconnu. Est-ce que j'ai fait les bons choix des enseignements, de spécialités, des modalités de ces apprentissages ? Parce que, quand même, une fois que j'aurai choisi mes trois enseignements de spécialité, je ne pourrai pas, en terminale, j'en choisirai deux, mais qui seront pris dans ces trois-là. Donc, je suis bien obligé de m'engager à un moment donné. Vous voyez, donc tout ça, avec vos enseignants, va être... et je vous signale que maintenant, vous avez deux professeurs principaux, d'ailleurs, qui doivent vous accompagner. Donc, ça va donner lieu à quelque chose qui existait, mais qui va se renforcer aussi. C'est-à-dire, dans l'établissement, ce dialogue, cette construction de votre responsabilité au travers des choix d'options et d'enseignements de spécialité que vous allez avoir à faire. Alors on peut toujours tout critiquer, on peut toujours dire soit que c'est le saut dans l'inconnu, donc ça fait peur. Enfin, je ne pense pas qu'il faille non plus s'effrayer du nouveau, au contraire, il faut s'en emparer. On peut dire aussi, est-ce qu'on est allé assez loin ? Est-ce qu'il n'y a pas le risque que se reconstituent des filières à partir des enseignements de spécialité ? Bien sûr, on sait bien, par exemple, que l'enseignement français, mais comme d'autres, a tendance, finalement, à favoriser la préparation de profils très scientifiques, plus que des profils de ce qu'on appelait jadis des humanités. Mais moi, je suis très optimiste, et je conclurai par là. Je crois fondamentalement que tout notre enseignement fait de vous, au fond, peut-être des scientifiques, mais il fait de vous aussi des philosophes, des lecteurs, et de plus en plus, avec ce nouveau baccalauréat, des jeunes qui vont apprendre ce qu'est la pensée complexe. Et moi, je serais heureux d'apporter ma petite contribution en dialoguant avec vos professeurs pour justement entrer dans cette forme de nouveau baccalauréat, de nouvelle organisation scolaire, en ayant aussi ensemble lu et relu un certain nombre de nos maîtres qui ont invité l'État à repenser cet examen-là. Voilà, je ne sais pas si je suis clair, mais on peut en dire beaucoup d'autres choses. Mais je vous invite vraiment à considérer que c'est peut-être une part d'inconnu, mais c'est exaltant.
Nous allons maintenant passer à la deuxième partie de notre émission qui parlera de la question du numérique. Nous invitons ensuite les élèves de Marmoz à visiter le site de la MLF, www.mlfmonde.org, sur lequel vous aurez des informations complémentaires sur ce sujet. Tout de suite, laissons la parole à Loïc Filion et Kelly Seklaoui pour introduire le sujet sur la MLF et le numérique.
Monsieur Debert, la MLF vient de sortir d'une rencontre consacrée au numérique. Pourriez-vous nous parler des actions stratégiques de la MLF concernant le numérique pour les établissements français à l'étranger ?
Alors, cher Loïc, c'est Loïc. Voilà. Le numérique éducatif dans la mission laïque française est une aventure. Je vais peut-être vous amuser, je ne suis moi-même pas un spécialiste du numérique, mais c'est un des sujets qui me passionne le plus dans la transformation de notre école. Nous y avons consacré, puisque chaque année nous faisons un congrès qui réunit tous nos personnels d'encadrement, les proviseurs, vos directeurs, etc., désormais des professeurs. Nous y avons consacré, il y a plusieurs années, deux congrès, un cycle de 2 ans, pour réfléchir sur comment ce qu'on appelle aujourd'hui le numérique, c'est-à-dire en gros une technique, l'informatique globalement appliquée aux moyens de communication modernes, et la pédagogie, mais aussi l'organisation scolaire, la manière dont les établissements sont organisés, parce qu'après tout, je vais vous parler de pédagogie, soit, mais il ne faut pas oublier non plus que le numérique apporte à la construction de l'établissement scolaire moderne, au travers d'un certain nombre d'outils. Jadis, les emplois du temps qui vous convoqués dans la classe chaque semaine étaient faits sur des grands panneaux comme ça avec un crayon et une gomme. Et certains se souviennent de ça, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, ce sont des logiciels qui aident les enseignants et leur direction à confectionner des emplois du temps et à les modifier. Jadis, on avait le cahier de liaison entre l'élève, l'enseignant et la famille. Aujourd'hui, c'est quoi ? Ça a un nom. Ça s'appelle Pronote, ça s'appelle des outils numériques de ce type qui font que, désormais, on assiste non seulement à une dématérialisation de la relation entre nous et avec vos parents, ça n'est plus du papier qui circule, ou en tout cas de moins en moins, mais c'est justement cette information qui passe par les tablettes, les smartphones et autres outils de ce type, en y ajoutant une chose qui est primordiale dans cette affaire et qui est très positive, mais en même temps qui peut avoir des défauts, c'est l'immédiateté de la communication et sa sûreté. Je vais vous amuser, vous en tant qu'élève parmi vous, du temps, il y avait des cahiers, il y en a bien 2 ou 3 qui ont falsifié un peu le cahier parce qu'il y avait une mauvaise note ou une appréciation un peu... Désormais, c'est plus difficile. Voilà, parce que l'information va circuler entre le professeur et les parents, ou la direction et les parents, sans que vous puissiez vous-même n'y intervenir. Ça, c'est le positif. D'un autre côté, si je parle d'organisation, il peut y avoir aussi du négatif. Après tout, tous les médias sociaux, les WhatsApp, etc., font aussi partie du jeu. Donc, toute la question pour nous, c'était de dire, nous sommes à l'étranger, nous sommes dans des écoles, des lycées éloignés de la France, nous avons besoin de communautés scolaires qui soient articulées sur la ressource pédagogique et intellectuelle française, et nous avons besoin aussi de leur donner des outils qui leur permettent, et je pense là aux professeurs notamment, d'avoir accès plus directement et plus immédiatement à ces ressources au lieu d'attendre que le paquet de la poste veuille bien arriver, que les cours par correspondance veuillent bien arriver, etc. etc. Donc il fallait, nous fallait réfléchir à cela. Et on a fait ces deux congrès qui ont été formidables. Parce que pour le coup, je reprends votre expression, pour nous, pour moi je l'ai bien vécu, c'était un saut dans l'inconnu. Qu'une organisation comme la nôtre dise « on va s'occuper de ça désormais » et essayer de trouver les bonnes solutions pour nos établissements scolaires, ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez une web radio, c'est quoi? C'est ça. C'est un des produits de ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, toutes ces salles que je vois dans l'établissement Mermoz, tous ces outils que progressivement on met à la disposition des professeurs, des élèves, ce qui fait que dans un établissement scolaire aujourd'hui, nous avons au fond toute une partie de la pédagogie qui est médiatisée par ces supports numériques, ça vient de là. Moi je suis halluciné, frappé, ça m'impressionne si vous voulez cela, de voir au fond la transformation profonde de la relation et de la transmission entre le corps professoral, les élèves, les parents, la direction, la communauté scolaire. C'est une vraie révolution que sans véritablement le comprendre ainsi, on a vécu. On le savait, mais maintenant c'est fait. On a construit récemment un très grand lycée à Casablanca. Et c'est impressionnant, près de 1000 postes de travail répartis dans l'ensemble de l'établissement. Et ça ne cesse de croître et d'embellir. Quelles sont les conclusions qu'on en a tirées? D'abord que ce ne sont pas les équipements physiques qui font la transformation de la pédagogie. La pédagogie, vous savez ce que c'est? C'est la relation entre la connaissance et vous. C'est-à-dire comment tout ce matériau énorme que l'humanité a accumulé et qui ne cesse d'augmenter, la science, la médecine, les lettres, etc., parvient jusqu'à vous dans un ordre, dans une capacité que vous ayez à vous en saisir, qui soit facilitée. Donc c'est ça la question. En quoi le numérique peut-il aider à cela? La première conclusion que j'en tirerai, elle est très rassurante. Contrairement à ce que beaucoup ont imaginé, l'école du numérique, ça n'est pas l'absence de maîtres, de professeurs, c'est au contraire le renforcement du maître et du professeur depuis les plus petites classes, dans sa capacité lui-même à organiser, à faciliter l'accès à la connaissance et à faire lui-même, car c'est toujours la même chose, ce sont les professeurs qui font le plus gros effort là-dedans, à faire cette révolution qui consiste à dire « Je ne suis pas le maître de la connaissance, je suis le maître de l'accès à la connaissance. » Je fais bien comprendre. La deuxième chose, c'est de permettre aux élèves que vous êtes, dans les différents âges de la vie, depuis les plus petites classes jusqu'à la classe terminale, d'être toujours plus à même de maîtriser ces outils de communication-là. C'est la raison pour laquelle non seulement il y a des outils physiques de ce type-là, mais il y a d'une part des techniques de maîtrise, ça en fait partie, mais aussi la possibilité désormais, je ne sais pas si à Mermoz ça existe, d'avoir accès à la compréhension de la manière dont fonctionne le numérique, l'informatique, les langages, les bases, comment est-ce que je code? Comment est-ce que je peux moi-même entrer dans cette espèce de mystère du digital? C'est quand même, l'informatique, c'est incroyablement simple. C'est 0, 2. Pour aller vers, peut-être moi-même, un jour, la construction non seulement de ma propre compréhension, mais du langage lui-même. Ça, c'est la deuxième chose. Et puis, la troisième chose, c'est comment faire en sorte que le numérique que nous mettons à la disposition de l'établissement permette de construire une communauté scolaire riche, enthousiaste, et qui partage. Je ne sais pas si vous-même, vous en avez conscience, mais quelque chose est en train de se passer de ce point de vue. Par exemple, le fait que de plus en plus, alors ça pose problème à l'organisation du travail, par exemple des professeurs eux-mêmes, de plus en plus la relation à l'élève s'étend hors de la classe. On peut communiquer avec son professeur, l'interroger. On peut avoir des classes inversées si certains d'entre eux estiment nécessaire de réfléchir avec des élèves très agiles à d'autres modes de faire. Vous savez très bien, la classe inversée, d'ailleurs, ce n'est pas un modèle préétabli. Il y a beaucoup de formes de classe inversée. Mais en gros, ça peut être de dire je ne vais plus avoir un cours magistral pour expliquer ce qu'est, je ne sais pas quoi, l'histoire du ver de terre. Mais ça, ce qui est absurde. Mais ça peut être de dire vous allez vous-même vous emparer de ce cours-là et nous allons utiliser le temps en commun de la classe pour débattre, approfondir, faire des exercices, etc. C'est-à-dire que le numérique peut aider aussi à renforcer votre propre capacité d'initiative et de responsabilité. À quoi cela nous conduit-il aussi ? À un espace scolaire dont encore vous-même vous n'avez peut-être pas totalement conscience. Mais nous avons monté des outils qui font que désormais, les professeurs du lycée international Jean Mermoz peuvent être, pourront être en contact avec des collègues aux États-Unis, au Liban, au Maroc, pour réfléchir sur des sujets scolaires qui les intéressent en commun, par petits groupes de 10, 12, se donner rendez-vous, parfois avec les décalages horaires, à minuit, 2 heures du matin, et ils sont courageux les professeurs, parce qu'ils le font, pour justement approfondir leur réflexion. Ça peut être aussi l'installation d'autres modes d'apprentissage. Par exemple, nous sommes en train depuis 2 ans, de créer ce qu'on appelle des classes culturelles numériques. Qu'est-ce que c'est qu'une classe culturelle numérique ? C'est un artiste, un peintre ou un architecte ou un homme ou une femme de théâtre à qui on confie le soin de faire réfléchir des classes sur un sujet esthétique ou pratique artistique. Et au lieu qu'il y ait une classe à Mermoz, il va y en avoir 8 ou 10 dans le monde qui vont travailler ensemble avec cet artiste ou cet expert qui peut être à Paris, qui peut être à Grenoble, qui peut être à New York et qui va vous aider à approfondir le thème qui aura été choisi. Voilà donc des modalités nouvelles. On se rend bien compte d'ailleurs, quand on parle de ça, que c'est formidablement intéressant. Mais peut-être même, et c'est ça qui est incroyable dans ce qui se passe aujourd'hui, peut-être que c'est une toute petite partie de ce que nous ne connaissons pas encore dans l'apport de ces technologies numériques-là.
Monsieur le directeur général, toujours sur la question du numérique, pensez-vous, monsieur le directeur général, qu'il soit possible d'envisager le principe de la classe inversée dans le contexte de la Côte d'Ivoire où la couverture Internet reste fragile?
Alors, c'est un aspect qu'il ne faut pas négliger. L'accès à une ressource numérique continue et à puissance égale et forte qui permettent justement à une communauté scolaire de pouvoir approcher tous ces contenus-là n'est pas acquise partout. Vous avez ce problème à Abidjan peut-être. Je connais à l'autre bout de l'Afrique, nous avons un très grand lycée de taille et d'importance équivalente en Éthiopie, à Addis Abeba, le lycée Gebre Mariam, qui connaît ce genre de difficultés. Alors c'est vrai que ce que certains ont appelé la fracture numérique n'est pas résolue, tout simplement parce que les accès, les câbles, qui relient, Vous avez déjà vu les câbles sous-marins qui aujourd'hui permettent de relier l'ensemble des parties, des capitales, des grappes humaines du monde? C'est impressionnant. Mais tout ça n'est pas encore complètement sûr, achevé et pose des difficultés. Mais là encore, soyons optimistes. Lorsque nous avons rouvert le lycée international Jean Mermoz en 2014, nous balbutions et on était encore sur de l'ADSL bien incertain. Aujourd'hui, ça s'est renforcé. Je pense que vous avez accès maintenant à la fibre ici. Donc c'est récent. Donc ça va aller dans le bon sens. Ça, c'est le premier point. Je vous ai parlé tout à l'heure des classes inversées. Je ne pense pas que les classes inversées soient totalement dépendantes de la sécurisation du circuit. Ça viendra. Ce qui m'intéresse le plus, c'est que, et je vous le dis comme je le suggère à vos professeurs, qu'on ne soit pas dans des modes fermés. On a maintenant un discours sur la classe inversée. Quand vous regardez ce qu'est la classe inversée, il y a des modalités très différentes de cela aujourd'hui. J'en ai cité une tout à l'heure. Mais je fais confiance à vos équipes pédagogiques pour trouver l'intérêt ou pas de cet usage. Je crois profondément que ça dépend aussi de vous. Ça dépend aussi beaucoup de vous, c'est-à-dire de l'intérêt, de la volonté que vous aurez, et ça c'est le plus important, le plus intéressant, d'entrer avec vos professeurs dans un mode de relation qui ne soit plus calibré par le nombre d'heures de cours, le nombre d'heures de classe, etc., mais dans une relation humaine d'échange et de confiance beaucoup plus forte encore qu'elle ne l'était auparavant. C'est ça, en gros, le principe de la classe inversée, c'est... Je fais un peu éclater le temps de la classe pour faire en sorte que, quand moi, vous, en l'occurrence, j'ai des moments de liberté, je veux me saisir d'un problème, ben, j'approfondis ma réflexion. C'est ça que ça veut dire.
Merci, monsieur le directeur. Vous allez maintenant vous entretenir avec Jessica Dacmac sur la question des études post-bac.
Donc, monsieur le directeur général, nous sommes fiers de fréquenter le lycée Jean Mermoz et les résultats obtenus aux examens, surtout au bac, nous font honneur. Nous aimerions savoir si la mission laïque française, MLF, a la possibilité d'œuvrer avec les services consulaires pour les demandes de visa qui freinent le départ de nombreux élèves en France.
Alors, bon, j'ai une pratique ancienne de cette affaire pour tous les métiers que j'ai pu exercer dans cette relation entre l'enseignement français et la diplomatie qui délivre les visas de toute l'administration consulaire. Là encore, je crois qu'il ne faut pas dramatiser ce qui ne mérite pas de l'être. À l'usage, quand vous regardez ce qui se passe, l'immense majorité des bacheliers de notre système scolaire à l'étranger ne rencontrent pas de difficultés pour obtenir des visas. D'abord parce que l'administration consulaire est alertée sur ce sujet. Deuxièmement parce que les familles... en connaissent les règles. Enfin, parce que les applications qui permettent de régler l'accès à l'enseignement supérieur français, puisqu'on est passé d'APB à Parcoursup, pour ce qui concerne l'université française, ne sont pas dissuasives, je dirais, sur la relation entre l'affectation du candidat en fonction de ses choix et la délivrance du visa. C'est toujours à la marge qu'un système administratif se gère. C'est pas dans la masse. Moi, j'ai appris ça il y a très très longtemps. C'est le tout petit pourcentage de grains de sable qui grippe la machine. Et alors là, on rentre dans l'humain, le travail du proviseur, de son équipe, pour entrer en relation avec le consul de la ville dans laquelle on se trouve, pour régler le cas. Et on le règle. Très franchement, je n'ai pas de retour qui soit définitivement inquiétant, dramatique sur ce sujet-là. Et il n'y a pas de raison que ça change. Pourquoi ? Parce que vous êtes nos élèves. Lorsque vous décidez de suivre des études en France, c'est la fierté de tout le monde, et qu'on aurait bien tort de se priver de vos talents. Donc, s'il y avait des fautes à constater de ce côté-là, nous n'aurions qu'à nous en prendre à nous-mêmes, et nous ne voulons pas nous en prendre à nous-mêmes. Donc, on les règle.
Ensuite, Monsieur le Directeur Général, nous aimerions savoir si la MLF parvient à suivre le parcours post-bac de ses bacheliers.
Alors, c'est une très bonne question à poser à notre organisation. Je crois que nous sommes encore à l'aube de ce qu'est le suivi des élèves que nous avons accompagnés pendant souvent 14 ou 15 ans de leur scolarité pour essayer de déchiffrer ce qui se passe après. En général, les chefs d'établissement et les proviseurs adjoints des lycées arrivent à partir des choix d'orientation à tracer le parcours de leurs élèves à l'année qu'on appelle N plus 1. Ensuite, pourquoi c'est plus difficile ? D'abord parce que vous nous oubliez. Vous vivez votre vie. Vous allez vous souvenir de l'établissement qui vous a formé après. Il faut attendre en général, 5, 6, une petite dizaine d'années pour que ça revienne dans vos mémoires. Mais c'est bien normal, parce que on change de vie, comme vous le disiez tout à l'heure, on saute dans l'inconnu, donc c'est l'inconnu qui vous sollicite. Donc vous n'avez pas à vous sentir un devoir immédiat et absolu de nous informer sur ce que vous devenez. Donc mon message aujourd'hui, c'est de dire, ne nous oubliez pas trop, et passez juste 15 secondes à faire un message à Madame Maudir pour dire... voilà ce que je suis devenu, j'ai fait ça en première année, voilà ce que je vais faire en deuxième année, etc. Ça nous aiderait bien. Pourquoi c'est difficile de notre côté de progresser rapidement là-dessus ? Tout simplement parce que quand on voit la dispersion de vos affectations, géographiques, thématiques, vous imaginez bien que, d'une part, l'université qui vous accueille, les universités qui vous accueillent, ont des dizaines de milliers d'étudiants à traiter et qu'elles ont du mal à nous trouver du temps pour repérer dans cette masse ce qui a été, ceux qui ont été nos anciens élèves. Et nous, d'un autre côté, nous ne pouvons pas nous permettre non plus d'interroger ces gens-là en permanence. Il faudrait un service complet pour le faire. Donc, vous voyez, le numérique peut nous aider à condition que vous vous en empariez vous-même pour dire, au fond... c'est pas que j'ai un devoir ou une dette à l'égard de mon établissement Mermoz, c'est que ça peut lui servir pour accompagner nos successeurs, les plus jeunes qui vont prendre votre place. Alors je vous le demande, et je vous demande de le dire à vos camarades, faites ce petit effort-là. Année N plus 1, je suis là. Année N plus 2, je suis là. Année N plus 3, je suis là. Vous aurez fait faire à Mermoz un pas immense dans la compréhension de ce qu'est l'avenir des élèves qu'il a préparé.
Nous arrivons à la fin de notre émission. Nous remercions infiniment M. le directeur général de la MLF, M. Jean-Christophe Debert, le lycée international Jean Mermoz et la mission laïque française. Pour finir, M. le directeur, voudriez-vous, au moment où le premier trimestre s'achève, vous adresser en particulier à l'ensemble des élèves de Mermoz ?
D'abord, les remercier de leur patience, parce que peut-être que j'ai été trop long dans mes explications et... Donc, leur dire tout le plaisir que j'ai à m'adresser à eux. Vous savez, cet établissement, pour moi, a un sens, dans ma vie personnelle, très particulier, parce que il y a longtemps, j'ai travaillé à Abidjan. À l'époque, je gérais la coopération française en Côte d'Ivoire, et j'ai connu Mermoz d'avant. Et pour moi, c'est un modèle de ce que devraient être un jour tous les établissements d'enseignement français dans le monde. C'est-à-dire, non pas des bulles posées sur un territoire non français, mais une main tendue de la société française à la société du pays d'accueil pour créer ensemble, dans des conditions qui soient optimales, un enseignement français mariée à une culture nationale, locale, pour former les jeunes que vous êtes, vous. Et je crois qu'au bout de quelques années, on est en train d'y parvenir. Je vais faire une dernière remarque pour vous tous, futurs bacheliers ou bacheliers en train de le devenir. Pour nous, ça va vous paraître bizarre, le baccalauréat n'est pas l'essentiel de ce que nous vous donnons ou de ce que nous vous aidons à acquérir. Bien sûr qu'on souhaite, et il y a encore des efforts à faire, que tous les élèves qui sont ici deviennent des bacheliers dans les meilleures conditions. Et je n'ai aucun doute, puisque nous y sommes parvenus en 4 ans, que nous atteignons bientôt les presque 100% de réussite qui font un établissement français à l'extérieur. Mais nous, ce qui nous importe, c'est quoi? C'est tout le reste dont on ne parle pas. L'apprentissage des langues, certifié par des passeports internationaux, Cambridge, Delhi, etc. C'est toute l'aptitude que vous avez à développer des apprentissages citoyens et des comportements qui vous signalent par rapport à d'autres qui n'ont pas eu cette chance. C'est la capacité que peut-être mesurent des épreuves d'examen, mais surtout ce que vous êtes, et vous le montrez aujourd'hui, à réfléchir, à savoir poser les bonnes questions au monde, aux autres, et à faire que vive comme un muscle bien entretenu, la curiosité qui fait qu'on ne s'endort jamais sur des certitudes préétablies, mais qu'on les questionne. Voilà, je vous remercie.
Merci à l'équipe de Radio Mermoz et à bientôt pour une prochaine émission.